France Musique.
Bonjour à tous. Et merci d'avoir choisi France Musique. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. La réouverture des théâtres, oui, mais dans quelles conditions? Combien de personnes sur scène? Combien dans la salle? Et quand exactement? Les théâtres privés ne peuvent redémarrer que s'ils espèrent rentrer dans leurs frais. Comment le directeur général de la Scala Paris, qui présente du théâtre mais aussi de la musique, envisage-t-il l'avenir? Frédéric Biessy sera notre invité à 9h moins le quart. Y aura-t-il une fête de la musique dimanche? Il y en aura une, oui, mais une fête inédite et essentiellement numérique. C'est au programme de Classique Info avec Sophie Anastasio. Rendez-vous à 8h40. Donald Trump menace de retirer des militaires américains positionnés en Allemagne. Ils assurent avec d'autres la sécurité de l'Europe dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Le président des États-Unis veut faire ainsi pression sur Berlin pour le gouvernement d'Angela Merkel mette davantage la main à la poche pour financer l'OTAN. Ce sera dans le journal d'Olivier Denré à 8h30.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Allez, très bon réveil en musique pour détendre les lombaires, étirements et Schubert. Thank you. Dans le trio opus 100 de Franz Schubert, il y a le célèbre Andante, vous savez que Stanley Kubrick a utilisé pour Barry Lyndon. Et puis il y a ce troisième mouvement, Scherzando, c'était Adam Laloum au piano. Missa Yang au violon, Victor Julien Laferrière au violoncelle. Missa Yang et Victor Julien Laferrière, ils ont participé à la Beethoven Fest. Elle a été enregistrée tout récemment en salle Cortot à Paris. Il s'agissait d'ailleurs des tout premiers enregistrements de France Musique depuis la fin du confinement. La troisième et dernière soirée de cette Beethoven Fest, c'est ce soir à 20h en la compagnie douce d'Arnaud Merlin. Et puis Victor Julien Laferrière, il est également demain soir en direct cette fois de l'Opéra de Dijon, à voir en ligne sur le site de l'Opéra. Avec David Grimal au violon, Philippe Cassard au piano, c'est le festival Artistes en Résidence, Artistes en Résistance, soutenu par France Musique. Ça y est, depuis hier, les musiciens, non pas du tout les musiciens, les musées de la ville de Paris ont rouvert. Alors, pas tous, c'est très progressif, mais si vous êtes dans la capitale ou que vous continuez à y passer, vous pouvez d'ores et déjà, avec un masque, avec une réservation en ligne et un sens de circulation précis, découvrir la nouvelle exposition du Petit Palais, par exemple La Force du Dessin, ou bien aller dans la maison de Balzac rénovée, c'est un jet de pierre de la maison de la radio. Et puis si vous avez envie d'un petit jardin secret, pourquoi ne pas franchir les portes du musée de la vie romantique, c'est dans le 9e arrondissement, au cœur de la Nouvelle Athènes. Cœur du romantisme dans l'art contemporain, c'est le titre de l'expo qui est proposé, où commence ce symbole de l'amour, le cœur, est dans une œuvre d'une quarantaine d'artistes et donc à découvrir au musée de la vie romantique. Les moulins de mon cœur, cette chanson Michel Legrand l'a écrite pour le film L'affaire Thomas Crown. Noël Harrison en est l'interprète d'origine. Ici, c'est l'une des plus grandes stars françaises qui l'interprète. Peu connu comme chanteur, saurez-vous reconnaître son timbre si célèbre?
Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles. Comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval. Comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures. Le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les arcs du vent. Comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland, sur les forêts de Norvège, sur les moutons d'océan. Comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, qui sait ce que tu m'as dit? Mais l'été finit sa course, l'oiseau tombe de son nid. Et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà. Et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts. Comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie. Comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus. Et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Au vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Alors, vous avez reconnu, c'est Alain Delon, bravo à ceux qui l'ont reconnu, Alain Delon en 1968. Il avait 33 ans et qui interprète la version française des Moulins de mon cœur. C'est une version qui a d'ailleurs été enregistrée pour la sortie du film en France. Elle n'a finalement pas été utilisée. Les Moulins de mon cœur, une rare mélodie d'ailleurs que Legrand a quelque peu emprunté à un autre Mozart, puisqu'on retrouve des lignes mélodiques du mouvement lent de la symphonie concertante pour violon et alto. 8h11, vous écoutez France Musique, ou partirez-vous en vacances cet été, si vous avez la chance en tout cas de partir? Une agence de voyage a eu une idée pour le moins originale et singulière. Il s'agit de séjours lyriques organisés chez de grands artistes dans leur région. Vous avez bien entendu, vous pouvez aller chez la soprano Julie Fuchs, chez le baryton Ludovic Tézier, ou bien encore en juillet en Nouvelle-Aquitaine, à la rencontre de la mezzo Béatrice Uriamanzone. Elle reçoit dans son village, perché sur un coteau. Le village s'appelle Lusignan-Grand. Après un concert privé, vous dînerez chez elle. Dîner concocté par un chef étoilé. Un voyage au cours duquel vous pourrez rencontrer rencontrer aussi le ténor Florian Sempé. Alors ça a quand même un prix, ce voyage organisé. C'est 3 800 euros tout compris par personne pour 3 nuits. France Musique, c'est gratuit pour écouter Florian Sempé chanter Jean-Philippe Rameau.
La voix des plaisirs m'appelle, cessez de m'arrêter. La voix des plaisirs m'appelle, et pourquoi lui résister? Le cœur ne doit écouter qu'elle. La voix des plaisirs m'appelle, et pourquoi lui résister? Reprenez vos concerts charmants. Chantez, priez sans cesse, aimable jeunesse, jouissez de votre printemps, cédez à la tendresse, aimez-le tout presse, connaissez le prix des beaux ans, chantez, riez sans cesse, aimable jeunesse. Connaissez le prix des beaux ans, connaissez le prix des beaux ans. Le présent, l'avenir, le passé même, tous les plaisirs.
Chantez, priez, chantez, aimable, chantez, jouissez de votre cœur. Cédez à la tendresse, aimez la promesse, connaissez le prix de vos ans, connaissez le prix de vos ans.
Jean-Philippe Rameau, les gavottes pour les bergers. Et juste avant, la voix des plaisirs m'appelle, extrait de Naïs. Florian Sempé, le chœur Purcell et l'orchestre Orfeo de Budapest, dirigé par Gyorgy Vacheghi. C'est l'heure à 8h16, l'heure de retrouver les voix de France Musique de l'été. À partir du 29 juin, elles vous accompagneront sur ces ondes pour 8 semaines de fêtes musicales estivales. Et parmi elles, celle de Charlotte Landru-Chandès. C'est elle qui a choisi pour nous ce matin une musique.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour accompagner votre café, je vous propose une petite friandise. Il s'agit d'un extrait de la sonate pour violoncelle et piano de Francis Poulenc. Alors il faut savoir que Poulenc n'était pas un grand fan des instruments à cordes solistes. Déjà en 1942, il compose une sonate pour violon et piano et il est loin d'en être fier. D'ailleurs, l'œuvre n'aura pas bonne presse. La sonate pour violoncelle est quant à elle commencée en 1940, elle est abandonnée, puis reprise en 1948 à la demande du violoncelliste Pierre Fournier. Elle est créée un an plus tard, Salgavo à Paris, avec Poulenc au piano et Fournier au violoncelle. Alors je vous propose d'écouter ici le troisième mouvement de cette sonate pour violoncelle et piano, le Ballabile, dont le titre renvoie à une pièce dansée. Vous allez le voir, c'est un enchaînement de pirouettes musicales, Poulenc s'amuse, sa partition est piquante, ironique, et rappelle ses compositions de jeunesse, comme par exemple la musique du ballet Les Biches. On retrouve cet esprit Paris des années 20, ce côté mauvais garçon, un peu chenapan. L'œuvre est bondissante, gaie, mais le lyrisme n'est jamais loin, comme toujours, chez Poulenc. Au violoncelle, Jean-Guy Enqueras, au piano, Alexandre Tarot.
Ballabile, le troisième mouvement de la sonate pour violoncelle et piano de Francis Poulenc. C'était Jean-Guy Enqueras au violoncelle, Alexandre Tarot au piano. 8h22, vous écoutez France Musique, mais oui, la vie est belle.
Oh, la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre. Et l'on traîne, on s'amuse à passer avec tous ses copains des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on sent là, on est triste et on traîne. Alors pense que moi je t'aime, et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là. Sadness you feel. You won't really fall in love, 'cause you can't take the chance. So be honest with yourself. Don't try to fake romance. It's the good life.
On pourrait l'écouter tous les matins, cette chanson de Sacha Distel, ici interprétée par Thomas Dutronc et ses musiciens, notamment Eric Lénini au piano, avec l'apparition ici, on vient de l'entendre, de l'acteur américain Jeff Goldblum, le nouvel album du guitariste et chanteur Thomas Dutronc qui vient de sortir en physique, en CD, son titre Frenchy, des chansons françaises qui ont toutes connu un succès international, c'est chez Blue Note, avec toujours cette filiation avec Django Reinhardt. Quand je dis Django, on me traite de rétro, dit Thomas Dutronc aujourd'hui dans les colonnes du Monde, et il ajoute, on ne me le dit jamais si je parle de Mozart. Thomas Dutronc qui fête la musique, ce sera dimanche, ce dimanche, sur la scène du Jazz Club Étoile Paris. Pas de public, mais un concert à voir en direct sur la page Facebook du club. France Musique, 8h25, chaud devant, voici Suzanne Gervais. Bonjour Suzanne.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, dans votre chronique, comme un conte, un maestro anglais, Mozart et des enfants.
Oui, et puis on part à Londres. Le London Symphony Orchestra a sorti en début de semaine un petit film sans prétention mais qui vaut le détour. Ça s'appelle Where is Simon ? Où est Simon ? Simon Rattle, le maestro, bien sûr. C'est un film de 11 minutes qui présente les noces de Figaro aux enfants. Il a été tourné pendant le confinement. Le chef qui se filme chez lui révèle comment fonctionne l'orchestre et chacun des musiciens présente son instrument depuis sa cuisine, sa chambre ou son salon. Le film se termine par une représentation complète de l'ouverture du plus révolutionnaire des opéras de Mozart, dirigé par Simon Rattle depuis son domicile. Les enfants sont invités à se joindre à tout cela, puis à participer à un quiz en ligne. Ce petit film est finalement une réponse à la crise sanitaire et un joli pied de nez à la distanciation sociale. C'est aussi une manière pour les musiciens du LSO de poursuivre bon an mal an leur mission d'apprentissage. Je rappelle que cet orchestre, comme la majorité des phalanges britanniques, est très très impliqué depuis des années dans l'éducation musicale. Et puis Simon Rattle s'inscrit dans la lignée d'un Leonard Bernstein. Bernstein qui avait créé et animé les fameux Young People's Concerts avec l'Orchestre Philharmonique de New York dans les années 50. Si vous ne connaissez pas encore, je vous conseille chaudement de prendre 10 minutes et d'aller cliquer sur les archives disponibles sur YouTube. Hein, c'est assez réjouissant. Eh bien, Simon Rattle s'adresse aussi aux enfants et aux familles, mais avec les outils numériques. Le film est disponible en streaming gratuitement sur le site internet du London Symphony Orchestra. C'est l'occasion de pratiquer votre English et même sans un bon niveau, on apprécie, je vous le promets. Notez noter que ce court-métrage Where is Simon fait partie d'une série de projets en ligne lancés par le London Symphony Orchestra. Ça veut dire qu'il y en aura d'autres pendant l'été.
Suzanne Gervais, thank you very much indeed. Mozart dirigé par Simon Rattle avec la voix de sa bien-aimée épouse, la mezzo Magdalena Kozenova. Elle chante Chérubin dans les noces de Figaro. Mozart, extrait des Noces de Figaro, air de Chérubin avec Magdalena Kozenova, l'orchestre du siècle des Lumières, dirigé par Simon Rattle. Simon Rattle, à la tête de l'orchestre symphonique de la radio bavaroise, c'est vendredi à 20h sur France Musique, un concert en partie enregistré pendant le confinement.
Musique Matin, Jean-Baptiste Urbain.
La réouverture des théâtres, oui, mais dans quelles conditions? Combien de personnes sur scène? Combien dans la salle? Et quand exactement? Comment le directeur général de la Scala Paris, qui présente du théâtre mais aussi de la musique, envisage-t-il l'avenir? Frédéric Biessy sera notre invité dans un quart d'heure. Et puis, une fête de la musique dimanche, il y en aura bien une, mais à quelles conditions? C'est au programme de Classique Info avec Sophie Anastasio. Rendez-vous dans quelques minutes. Pour l'heure, il est presque 8h31. Grand temps de retrouver Olivier Denré pour le journal. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. C'est une mécanique désormais bien rodée, une tactique présidentielle déjà utilisée dans d'autres dossiers internationaux. Donald Trump qui menace d'un retrait américain pour faire pression et obtenir gain de cause. Menace mise en œuvre, on s'en souvient, dès le début de son mandat, l'accord de Paris sur le climat, le traité sur le nucléaire iranien, récemment la sortie de l'OMS et depuis le début de cette semaine, eh bien cette promesse d'un retour au pays d'une grande partie des soldats postés en Allemagne. On parle ici d'au moins 9000 militaires. Le locataire de la Maison-Blanche veut ainsi faire pression sur Berlin qui, d'après lui, ne participe pas suffisamment financièrement au budget de l'Alliance Atlantique. De quoi sérieusement inquiéter les responsables de l'OTAN et les ministres de la Défense des pays membres de cette organisation qui devrait avoir aujourd'hui des discussions particulièrement tendues à propos donc de ce dossier. Nathalie Hernandez.
Dès son arrivée au pouvoir il y a 3 ans, Donald Trump avait menacé ses alliés de ne plus jouer la solidarité s'ils ne s'engageaient pas à contribuer plus au budget de l'OTAN pour atteindre les 2% de leur PIB. La semaine dernière, devant les cadets de l'Académie militaire de West Point, le milliardaire américain avait d'ailleurs répété que l'Amérique n'était pas le gendarme du monde. Une fois encore, Donald Trump s'en prend à l'Allemagne, jugée selon lui à la fois mauvais élève de l'Alliance et mauvais partenaire commercial. L'annonce d'un retrait des soldats américains outre-Rhin est une question sérieuse, a estimé hier lors d'un point presse Jens Stoltenberg. Le secrétaire général de l'OTAN a pourtant rappelé que ces 2 dernières années, l'Amérique du Nord n'avait cessé d'augmenter ses effectifs en Europe, que ce soit à travers les nombreux exercices auxquels les États-Unis participent, ses missiles déployés en Roumanie ou encore ses navires dans la Baltique. Ce que doit entendre Washington, a conclu Jens Stoltenberg, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de la protection des Européens, mais c'est aussi l'expression de la projection de la puissance américaine en dehors de ses frontières.
La Turquie annonce ce matin avoir déployé en Irak des forces spéciales pour combattre les rebelles kurdes. L'opération a été baptisée Griffe du Tigre par les autorités. Ankara précise que les commandos sont appuyés actuellement par des drones et des hélicoptères de combat. Plus de 1200 vols d'avions annulés au départ de Pékin. Les autorités chinoises ne veulent prendre aucun risque au moment où l'épidémie de coronavirus semble rebondir sur place avec chaque jour la découverte de nouveaux cas de contamination dans la capitale. Toutes les écoles sont fermées jusqu'à nouvel ordre. La contagion se poursuit également de plus belle au Brésil avec près de 35 000 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures. Il a défendu son bilan sans sourciller devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a précisé qu'il avait toutefois tiré toutes les leçons de la crise sanitaire afin de se préparer à une éventuelle deuxième vague. Les députés entendront aujourd'hui 2 de ses prédécesseurs et puis demain, ils auditionneront Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont hier manifesté en France pour réclamer des moyens supplémentaires pour l'hôpital public et de meilleurs salaires pour le personnel soignant. À Paris, des échauffourées, ont éclaté en fin de journée entre les forces de l'ordre et plusieurs centaines de casseurs. Et puis à Dijon, le gouvernement se défend de tout laxisme après les violences qui ont secoué ces derniers jours le quartier populaire des Grésilles. Des renforts de police ont été envoyés sur place pour tenter de mettre un terme aux opérations punitives fomentées par des dizaines de Tchétchènes qui sont venus venger l'un des leurs. Terminons ce journal en évoquant cet appel du 17 juin contre la réintoxication du monde. Appel lancé contre des projets considérés comme toxiques, donc écologiquement et socialement parlant. 150 collectifs ont ainsi répondu présents pour des actions de terrain aujourd'hui dans toute la France. Benoît de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes est à l'origine de cette opération inédite. Il est au micro de Véronique Reberotte.
L'idée, c'est vraiment de lancer de nouveau un cycle d'action contre la réintoxication du monde, en se disant qu'on peut pas compter sur nos gouvernements, sur les lobbies nucléaires, agrochimiques, industriels, pour prendre les mesures qui s'imposent en termes environnementaux, qu'on pense que le moment du confinement a créé un moment de lucidité, de grande émotion sur la question de l'empoisonnement du monde, et que maintenant, nous, notre expérience depuis la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est que c'est quand même l'action de terrain qui peut réussir à préserver des terres, qui peut réussir à ce que des projets nuisibles, toxiques, ne soient pas menés à bien, ou même à ce que des industries, à ce que des sites de production de ce type s'arrêtent. En tout cas, dans ce qui sera visé, il y aura des usines d'engrais, de pesticides, de la construction aérienne, des plateformes Amazon, des fermes-usines de poulets. Il y aura des sites aussi naturels, des zones humides, des terres arables, des terres cultivées, une forêt à côté de Rouen, etc. Tout un tas de sites aussi qui menacent d'être détruits par des projets de bétonnage et d'industrialisation. Et pour nous, c'était tout à fait aussi important, c'est pour ça qu'on a mené cet appel avec des syndicalistes, que la question des travailleurs effectivement de ces sites de production soient pris en compte et fassent partie des enjeux, parce que s'il y a des luttes aujourd'hui environnementales, écologiques à mener, il faut qu'elles se fassent aussi avec les travailleurs des sites concernés.
Des orages sur le nord-est du pays, des averses sur l'ouest de la France. Le temps sera plus sec et plus ensoleillé sur le sud. Les températures de 10 à 19 degrés ce matin, de 16 à 27 degrés cet après-midi. Jean-Baptiste Urbain.
Olivier Denré, le journal, là demain. Olivier,
à demain.
À 8h36. Il fait beau en Espagne, on y va avec Emmanuel Chabrier. Thank you. Il en rêvait depuis l'enfance, l'Auvergnat Emmanuel Chabrier, l'Espagne. Il l'a découverte lors d'un voyage qui lui inspirera cette célèbre rhapsodie Espagna. Ici, c'était le Philharmonia Orchestra dirigé par Herbert von Karajan. Le voyage d'Emmanuel Chabrier en Espagne, c'est l'histoire que nous raconte tout à l'heure à 13h Anne-Charlotte Raymond dans Musicopolis. Il est 8h42. Et c'est donc l'heure de Classique Info avec Sophia Anastasio. Bonjour Sophia.
Bonjour Jean-Baptiste.
Le gouvernement a mis en ligne une plateforme dédiée à l'éducation artistique et culturelle.
Une sorte de porte d'entrée pour ce que le président Emmanuel Macron avait appelé l'été culturel et apprenant. Cette plateforme que l'on trouve sur le site culture.gouv a pour objectif de mettre en relation la jeunesse et les artistes. Ces derniers sont invités à s'inscrire pour proposer des projets pendant l'été. Ce sont ensuite les directions régionales des affaires culturelles, DRAC, qui étudieront et valideront les projets. L'État débloque un budget de 20 millions d'euros pour cette initiative.
Et l'Union syndicale des employeurs du secteur public du spectacle vivant interpelle le ministre de la Culture, le Premier ministre et le Président de la République pour un plan de relance.
Elle réclame un plan d'urgence pour le spectacle vivant subventionné avec un soutien clair et conséquent à la reprise de l'activité, ce qui passe notamment par un accompagnement renforcé aux équipes artistiques et une compensation financière des pertes de billetterie.
À quoi va ressembler la fête de la musique dimanche ?
On en sait un peu plus. Le gouvernement vient de publier un communiqué sur cette édition 2020 qui se veut différente, solidaire et numérique. Des concerts pourront se dérouler dans des lieux autorisés à accueillir du public avec respect des distanciations physiques. Les concerts spontanés ne sont pas autorisés, mais les manifestations sur la voie publique pourront faire l'objet d'un régime dérogatoire avec une autorisation préalable du préfet de département. Le ministère de la Culture indique également que des concerts seront organisés dans des centres hospitaliers pour les personnels soignants, les patients et leurs familles. Il invite par ailleurs musiciens professionnels et amateurs à interpréter « Chanson sur ma drôle de vie » de Véronique Sanson le 21 juin, juste après 20h, depuis son jardin, sa cour, son balcon ou les réseaux sociaux.
Et puis France Musique aussi organise sa fête de la musique.
En direct du studio 104, Aurélie Moreau et Laurent Vallière vont réunir ce dimanche des artistes de musique classique, comédie musicale ou de jazz pour 3 heures de musique à partir de 20h avec entre autres le trio Zadig, la Chapelle Harmonique avec Alex Vizorek et Thibaut Garcia.
Et on termine par une triste nouvelle, une institution qui disparaît de la scène strasbourgeoise. Le magasin Wolf Musik met la clé sous la porte.
Après 195 années d'existence, le plus vieux magasin d'instruments de musique de la ville ferme le rideau. C'est à lire dans le journal Le Monde qui revient sur l'histoire de l'institution alsacienne et sa descente aux enfers économiques depuis 2013, avec au bout la crise du Covid-19 dont elle ne se relèvera pas.
C'était Classique Info, c'était Sophia Anastasio. À demain, Sophia.
À demain.
France Musique.
France Musique.
Vous allez là.
Vous allez l'adorer.
9h moins le quart, c'est encore pendant quelques jours le printemps. Printemps, c'est le titre de notre nouveauté du jour. C'est le dernier disque de l'ensemble Gilles Binchois, dirigé par le ténor Dominique Vélard. Il est consacré à Claude Lejeune. Après sa mort, sa sœur, Cécile, la sœur de Claude Lejeune, réunit en 1603 un recueil intitulé Le Printemps, justement. Il comporte des airs, des ballades, des chansons. La musique de Claude Lejeune a moins été diffusée que celle de Clément Jeannequin ou de Josquin Després, à la même époque, sans doute parce qu'il était protestant. Pourtant, quelle prosodie et quelle richesse harmonique.
Thank you.
Amour, quand fus-tu né, Claude Lejeune, c'était l'ensemble Gilles Binchois, dirigé par Dominique Vélard. Disque qui s'intitule Le Printemps, il vient de paraître chez Aparté, 8h51, il est en ligne avec nous, voici notre invité.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Notre invité ce matin dirige un théâtre à Paris, un théâtre privé, né voilà presque 2 ans. On peut y voir non seulement des pièces, mais beaucoup de musique classique, contemporaine, du cirque, de la danse au théâtre. C'est la Scala Paris et c'est vous qui le dirigez, l'a dirigé, la Scala, Frédéric Biessy. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Quand la Scala Paris pourra-t-elle rouvrir au public?
En septembre, le 11, puisqu'on a ouvert le 11 septembre 2018, on va rouvrir le 11 septembre 2020.
Et dans quelles conditions sanitaires?
Ça, j'en sais rien. Pas plus que personne, d'ailleurs. Mais on rouvrira, quoi qu'il arrive.
Dans le monde...
Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas. Moi, je trouve qu'on vit un moment absolument formidable où tout le monde dit tout et son contraire et où personne ne sait vraiment. Et on espère tous qu'on pourra rouvrir, même en portant un masque, en ayant tous les spectateurs assis les uns à côté des autres. Ça serait l'idéal.
Dans le monde de la scène, certains, justement, certaines artistes et dirigeants sont pour la rouverture, quoi qu'il en coûte, pour reprendre l'expression présidentielle. D'autres sont opposés à cette distance entre les spectateurs qui casserait, je sais pas comment dire, une communion, si on peut dire, face à la scène. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que face à cette crise, parce que c'en est une quand même, ça fait quand même 3 mois qu'on a été suspendu en plein vol et que ça va encore au moins durer 2 mois. Face à cette crise, on a 2 attitudes possibles. Soit on liste les contraintes, les impossibilités et on obtient un résultat auquel on ajoute la somme de nos peurs pour conclure à un magistral le retour à la normale n'étant pas possible, on va pas rouvrir. Ou alors, on se souvient que la définition même de nos métiers, c'est de nous adapter, nos métiers de directeur théâtre, d'organisateur, c'est de nous adapter pour rendre possible toutes les manifestations de l'art, quelles que soient les contraintes. Et dans ce cas, on s'apprête à rouvrir dès septembre, en se faisant confiance et en disant qu'on va trouver des solutions. On a des solutions. Mais ce qui est très amusant, c'est que, comme toujours, quand on est dans des périodes de peur, parce que c'est une période de peur, Si on a 3 minutes, on parlera de ce qui est en train de se passer en ce moment avec le retour de la pandémie, soi-disant en Chine, où pour 100 cas, on a une démonstration extraordinaire d'hommes en blanc partout, des villes, de confinement. C'est de la com, faut arrêter. Faut qu'on reste dans une espèce de calme et puis qu'on se dise que demain, c'est demain et que si on doit ouvrir avec une place sur deux, on rouvrira une place sur deux, même si, évidemment, c'est pas facile. Bien sûr que quand on se retrouve à faire nos calculs en disant la moitié d'une recette, c'est pas une recette, ça je veux dire, faut pas être Einstein pour le comprendre. Bon, et alors, on va travailler, et c'est ce que je dis depuis le début de cette crise, il faut travailler avec pragmatisme, bon sens, et puis tout le monde doit pouvoir à un moment s'adapter à ça. Les artistes, si à un moment il y a qu'une moitié de recette, les cachets vont pas être obligatoirement les mêmes que ceux qui sont d'habitude, ils vont être plus bas. C'est évident. Nous, on va réduire nos voilures, c'est-à-dire, faire en sorte que on soit moins lourd, moins dans le fonctionnement. Et puis le public, on va lui demander de participer un petit peu parce que c'est la crise et que s'ils ont envie de voir des artistes de qualité, on va payer un peu plus cher.
Frédéric Biessy, le public, justement, vous parliez de la peur. Est-ce que vous craignez que le public de la Scala Paris ne revienne pas?
Non. Alors je suis d'un tempérament assez optimiste. C'est ma nature, sinon on n'aurait pas construit la Scala avec Mélanie, ça c'est sûr.
Votre épouse.
Et puis, parce que la Scala, c'est avant tout et d'abord grâce à l'optimisme et à la foi de ma femme qui nous a suivis dans ce rêve, pas fou d'ailleurs, dans ce vrai rêve, mais qui nous a permis de le faire. Non, je pense qu'on, je sais pas, il y a quelque chose qui me fait dire que tout va se passer relativement, beaucoup plus simplement que toutes les peurs qu'on est en train de revenir en ce moment. On ne sait pas. Quand on ne sait pas, ça fait peur. Mais quand on va se trouver au pied du mur le 11 septembre, on saura. Et on fera.
Vous présenterez, Frédéric Biessy, vous présenterez dans quelques jours votre nouvelle saison. On peut déjà dire certaines choses. En tout cas, la reprise du grand succès de l'an dernier, par exemple, Une histoire d'amour d'Alexis Michalik. C'est sur votre site.
Oui, absolument. On va rouvrir le 11 septembre avec deux, enfin, C'est pas tout à fait juste d'ailleurs. On ouvre pas le 11 septembre. Le 11 septembre, il va y avoir la reprise d'une histoire d'amour qui va partir pour une longue vie. Et là, pareil, on verra bien comment on va le faire avec un spectateur sur deux ou deux spectateurs. On verra, mais on le fera. Et puis, on va inaugurer la petite salle. Parce que ça aussi, c'est une réponse à la crise. On était en train de construire une petite salle sous le plateau de la Grande. Évidemment, dans une période où les recettes rentrent plus depuis 3 mois, le réflexe normal, c'est de dire on arrête les travaux, c'est pas le moment de dépenser. Mais au contraire, c'est le moment de rajouter des places et la possibilité au public de venir dans un deuxième lieu, à plus forte raison si on peut pas le remplir complètement. Donc on a décidé, enfin Mélanie, comme toujours, nous a suivi et a dit « Oui, bien sûr, on construit maintenant la petite salle, c'est maintenant plus que jamais qu'il faut le faire. » Et donc on va construire cette petite salle dans laquelle on va accueillir de la musique, de la danse, du cirque, du nouveau cirque, etc. etc.
Rendez-vous. Mais donc...
On ouvre la saison, pardon, c'est très important, on n'ouvre pas la saison le 11 septembre, on va dire on l'ouvre le 4 septembre avec l'IRCAM, et avec une partie du Festival Manifeste qui n'a pas pu avoir lieu et qui aura lieu donc en partie chez nous à la rentrée. Pour moi, c'est extrêmement important, symboliquement, de dire, voilà, on vient de traverser une crise grave. Pour des théâtres privés, c'est carrément de plein fouet, parce qu'on n'a pas de subvention, donc obligatoirement, pas de recettes, c'est vraiment une mise en danger de nos lieux. Et on va d'abord rouvrir avec l'IRCAM, et on va s'associer avec de nouveau avec ces personnes qui nous ont suivis depuis le début, et on va leur donner la possibilité de faire entendre leur musique en ouverture. Pour moi, c'est important.
L'IRCAM en septembre, et puis le festival aux armes contemporains en octobre. France Musique sera là également. Merci beaucoup Frédéric Biessy, directeur de la Scala Paris, et à bientôt.
Merci.
C'est la fin de Musique Matin. Yacine Bouzard, Xavier Attaud, Emmanuel Dupuis, Marion Guillemette, Aïssa Froidure, Margot Muller au générique. Demain, notre invité sera le ténor Stanislas de Barbérac. Voici Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier. Bonjour, bonjour.
Bonjour,
Jean-Baptiste.
Il y aura du Bizet au début de cette émission avec François Leleu, oboïste qui prend la baguette. Oui. Et il y a une très belle suite Carmen. Oui, ça fait un moment. Mais on l'entend pas.
Il dirige pas avec son hautbois.
Non, quoique dans la petite symphonie de Gounod, très certainement. Mais certainement pas dans Bizet.
À demain,
Jean-Baptiste.
À réécouter sur francemusique.fr.